appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mboujimaï au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous pour cet échange citoyen d'un parole aux auditeurs. Le gouvernement Bruno Tshibala est arrivé à la fin de son mandat. Après près de 2 ans de travail, ce gouvernement s'était fixé certaines priorités, notamment l'organisation des élections, la stabilisation et la relance de l'économie, la sécurité ainsi que l'amélioration des conditions socio-économiques de Congolais. Quel bilan faites-vous du gouvernement Bruno Tshibala? 081-890-49-69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines, mis en onde par Polydor Basunga. Tati Mapuku est à la réalisation et Piero Elamiji, pour moi, c'est un réel plaisir de vous le présenter. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero Elamiji.
Et nous faisons le point, comme on vous avait promis lors de l'installation du gouvernement Bruno Tshibala. Nous nous retrouvons pour faire le point sur le travail qui a été fait. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio le professeur Tshibangalala, ministre délégué auprès du Premier ministre. Il fait aussi l'intérim du ministre de l'Agriculture ainsi qu'affaires foncières. Professeur, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Piero Elamiji.
Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans Parole aux auditeurs.
Enfin, c'est ma maison et j'ai vraiment soif de revenir ici à cause des obligations gouvernementale. Je n'ai pas pu avoir suffisamment de temps de venir régulièrement. Mmh. Mais c'est un plaisir de retrouver cette maison.
Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le contexte dans lequel le gouvernement Bruno Tshibala a été mis en place, en bref?
Bon, brièvement, tout en saluant les auditeurs de Radio Okapi, et tout en fait remerciant la direction de Radio Okapi et vous-même de l'équipe rédactionnelle de Parole aux auditeurs pour cette occasion que vous me donnez aujourd'hui de faire le point sur l'action du gouvernement d'Union nationale. Il faut rappeler brièvement que en 2016, il y a eu une crise politique qui a failli emporter notre pays. Mmh. Et dans la mesure où le président de la République honoraire, Joseph Kabila, à l'époque président de la République, terminait son deuxième et dernier mandat. Mais on n'a pas pu organiser les élections au mois de décembre 2016. Il y a eu une confrontation dans la rue. Il y a eu des morts, il y a eu des pertes en vies humaines, en biens matériels. Finalement, la sagesse politique l'a emporté. Le président Tshisekedi de l'UDPS, qui était notre chef de file de l'opposition, parce que moi j'y suis du rassemblement des forces politiques sur la crise au changement, et le président de la République, à l'époque, Joseph Kabila, ont fait preuve d'une grande sagesse politique. Ils ont dit qu'il faut mettre fin à la confrontation dans la rue. Mettons-nous autour d'une table, trouvons un compromis intelligent qui peut nous permettre de travailler ensemble, de stabiliser notre pays, stabiliser les institutions et faire fonctionner le pays correctement. Mmh. Il y a eu un dialogue sous les bons offices des prêtres catholiques, des évêques, et nous avons conclu un accord politique global inclusif le 31 décembre 2016 qui prévoyait justement la mise en place d'un gouvernement d'union nationale avec l'accord du président Tshisekedi, qui a dit nous devons reconnaître le président Kabila comme président de la République, chef de l'État, nous allons mettre en place un gouvernement d'union nationale et on travaille ensemble et on va aux élections, et aux élections le peuple aura l'occasion de nous départager, de légitimer le pouvoir en place. Et donc la priorité des priorités, c'était l'organisation des élections. Et ce gouvernement d'Union nationale avait 4 missions, et nous allons en parler au Conseil. Et
exactement, c'est exactement maintenant les missions les principales que le gouvernement s'était assigné.
Alors, il y avait 4 missions. C'est bien indiqué. Et dans l'accord principal, et dans l'arrangement particulier parce qu'on est revenu là-dessus. Mm-hmm. Première mission assignée au gouvernement aujourd'hui Tshibala, c'est l'organisation des élections. Mm-hmm. Il fallait mettre fin à la querelle de légitimité du pouvoir dans le pays. Deuxième mission, il faut stabiliser et relancer l'économie nationale qui était dans une situation catastrophique en 2016-2017. Troisième mission, essayer d'améliorer les conditions de vie de la population. Enfin, quatrième et dernière mission, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Voilà les quatre missions qui étaient assignées à ce gouvernement par le peuple congolais à travers l'accord politique global, inclusif, du 31 décembre 2016.
Et avant que les auditeurs nous disent ce qu'ils en pensent, vous qui avez mené, qui avez le pouvoir, disons la charge de piloter ces missions, comment à l'interne évaluez-vous ces quatre missions d'une manière brève, ce qui a été fait et pourra aussi voir qu'est-ce qui n'a pas été fait, qui pourra être fait prochainement.
Merci Pierre-Aurel, mais je ne vais pas sombrer dans l'autosatisfaction pour dire que oui, on a bien fait, on a travaillé, on a réglé tous les problèmes. C'est pas ça. Mais je dois à la vérité de dire aux auditeurs de Radio Okapi, à notre peuple, que nous avons bien travaillé. Première mission, l'organisation des élections. Nous avons organisé des élections avec nos moyens propres. Pour la première fois, le peuple congolais n'a pas tendu la main aux étrangers pour qu'on leur donne l'argent, pour organiser des élections. C'est une honte extrême pour un peuple comme le nôtre d'être un peuple de mendiants. Même pour choisir nos propres dirigeants, ce sont les étrangers qui doivent donner de l'argent pour les élections. Et là, je salue le volontarisme, la décision du président de la République honoraire, Joseph Kabila, qui nous a dit, répété plusieurs fois au gouvernement, nous allons organiser les élections avec notre propre argent. Nous devons protéger la souveraineté du peuple congolais. Fini la main tendue. Et donc, nous avons organisé les élections avec nos propres moyens. Et ces élections se sont déroulées de manière convenable. Et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, il y a eu une passation pacifique, civilisée, ordonnée entre le président de la République sortant et le président de la République entrant. Donc nous pensons de notre côté que nous avons fait notre travail correctement.
Pour le premier point, oui.
Pour le premier point. Deuxième mission, amélioration des conditions de vie de la population. Nous pensons également que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous avons augmenté les salaires des fonctionnaires à deux reprises. Nous avons augmenté le SMIC depuis 2008 jusqu'en 2018. Pendant 10 ans, on n'avait jamais touché au SMIC. Nous l'avons augmenté de presque 500 ou 600 ou 700% à peu près. Mais à ce sujet, il faut être honnête. La RDC reste un pays de bas salaires. La pauvreté est toujours là. Ce monstre qui extermine notre peuple est toujours là. La pauvreté, la misère, conditions de vie. Mais si on pouvait être capable de donner 1000 dollars à un huissier, on allait le faire. Mais nous ne pouvons pas distribuer une richesse que nous n'avons pas. Il faut d'abord produire les richesses et puis les répartir.
Et c'est là même la question sur les actions qui devaient être menées pour la production des richesses et dans la relance de l'économie.
Je veux revenir là-dessus justement. Et donc, il faut que nos compatriotes comprennent sur ce point, que notre mission n'était pas d'instaurer le paradis en RDC dans l'espace de 12 mois. Voyez-vous? Mais c'était de faire ce qui était possible en fonction des moyens disponibles. N'est-ce pas? Et ces moyens qui nous sont donnés par le peuple lui-même. À travers le paiement des impôts, des taxes, etc., l'argent qui arrivait dans la caisse de l'État. Et donc, nous avons essayé de distribuer ce qui était disponible, avec beaucoup de rigueur, de sagesse, pour ne pas détruire l'économie. Et donc, sur ce point-là, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Troisième mission, la sécurité, l'ensemble du territoire. Eh bien, il n'y a pas de guerre dans notre pays. On a organisé les élections sur l'ensemble du territoire national, dans de très bonnes conditions. Il y avait quelques problèmes à Yumbi, pour des raisons que vous connaissez. Bon, ça s'est calmé, finalement, la CENI a fait les élections à Yumbi. Dans le Nord Kivu, ou dans certains territoires, il n'y a pas eu élection, pour des raisons d'insécurité, finalement, notre armée qu'il faut féliciter, qu'il faut saluer, nos forces de défense et de sécurité, qu'il faut féliciter, qui ont travaillé dans des conditions difficiles, ils ont stabilisé la situation, la CENI a organisé l'élection par après. Donc sur l'ensemble du territoire national, il y a la paix, la sécurité. Mais les actes de banditisme isolés, avec des voyous qui passent dans certains villages pour massacrer la population, ça, ce sont des actes isolés sur un petit morceau de notre territoire. C'est inadmissible. Notre armée, les forces de défense et sécurité travaillent là-dessus pour que progressivement, on puisse nettoyer définitivement ces nids de désordre et du banditisme. Il n'y a aucun pays au monde qui est à l'abri des actes du banditisme. Et donc, sous réserve de cela, le pays est calme. Maintenant, la dernière mission, c'est l'économie. Ce que vous avez dit. Stabiliser et relancer l'économie. L'économie, c'est le cœur, c'est le centre. Pour régler les problèmes de la population, la misère, il faut qu'on ait une économie vibrante, qui marche, une économie qui produit des richesses, qui produit des emplois. Sur ce point-là, nous sommes sur la bonne voie. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons stabilisé notre monnaie. Donc les indicateurs macroéconomiques aujourd'hui, au moment où nous tenons cette émission, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais vous pouvez le constater vous-même. Au mois de juillet 2017, mais on disait que fin décembre 2017, le franc congolais va se changer à 2500 francs. Moi, j'ai parlé avec les experts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, qui sont venus à la primature. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, vous savez, d'ici décembre 2017, votre économie est totalement par terre. Vous allez changer le franc congolais à 2500 francs congolais pour un dollar. Eh bien, le président de la République honoraire a dit... Nous allons travailler pour stabiliser la situation. Eh bien, nous avons stabilisé la situation depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Eh bien, le franc congolais se défend bien par rapport au dollar. Nous avons stabilisé le taux d'échange, stabilisé le taux d'inflation, stabilisé. Nous avons terminé l'année dernière avec un taux d'inflation de 7,2%, la moyenne acceptable. Cette année, nous espérons atteindre 6% des taux d'inflation. Donc nous sommes dans le bon, nous sommes au vert. Les réserves d'échange internationales que nous avons trouvées en arrivant au pouvoir au mois de mai de l'année dernière, eh bien nous avons trouvé ces réserves à 600 ou 700 millions de dollars, et dont une partie était même donnée en gage. Voilà. Aujourd'hui, nous avons dépassé le milliard de dollars. Donc nous laissons, sur ce point-là, nous laissons le pays avec des indicateurs macroéconomiques positifs et au vert. Et le prochain gouvernement va prendre les choses en main. Il va trouver qu'on a bien travaillé, que la base est solide. Et ce gouvernement devra aller plus loin, faire mieux que ce que nous avons fait dans l'intérêt de notre peuple.
On prend les auditeurs. Ils sont nombreux qui voudraient bien intervenir. Olivier Takikuit, Serge Akamina, Ignace Akolesi. Olivier, merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à l'invité, le professeur.
On vous écoute.
Ok, voilà, c'est très bien. J'ai bien écouté notre invité. Et l'autosatisfaction, c'est vrai, bon, il ne va pas tomber là-dedans. Mais je vais lui rappeler 2 choses. Le Premier ministre lui-même est satisfait d'avoir accompli sa mission. Et voici ce qu'il a déclaré il y a quelques jours. Je sors la tête haute, très heureux d'avoir accompli toutes les missions qui m'étaient confiées par le peuple congolais. Et il a un seul regret. C'est de n'avoir pas conduit le Congo au rang des pays émergents. C'est le seul regret du Premier ministre. Donc voilà. Alors, quand le Premier ministre dit qu'il a accompli toutes les missions, je crois que c'est un peu pour confirmer ce que l'invité vient de dire. Mais voilà, nous avons des difficultés, Pierrot. Je pense que je vais aller point par point. Si nous prenons la sécurité... Je suis très, très déçu de constater que l'invité banalise les problèmes. Il dit quelques petits problèmes à Yumbi. Mais ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est une banalisation grave. À l'Est, il n'y a que des problèmes. Donc, j'aimerais que l'invité comprenne, et parce que tout le monde dira la même chose, du côté de la sécurité, personnellement, je dirais que le travail n'a pas été fait. Évidemment, ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ont trouvé la situation dans cet état-là, je peux le dire, mais ils auraient pu améliorer. Ça, c'est une première chose. La sécurité, pour moi, de ce côté-là, ils n'ont pas fait grand-chose et il y avait mieux. Il y avait mieux à faire. Si je prends la stabilisation et la relance économique, de ce côté, côté là je peux dire que la seule chose qui a été stabilisée, Pierrot, c'est la misère. La misère a été stabilisée et dans certains coins elle a été aggravée. La misère a été stabilisée et du côté de l'économie, je dirais qu'il y a eu stagnation et même recul. Alors, quels sont les indicateurs d'une relance économique?
Olivier, quand vous dites que sur les plans économiques, il y a eu recul, bon, quels sont les indicateurs? Vous pouvez dire par exemple que non, voilà, sur les plans chiffrés, avant il y avait ça, après les 2 ans du gouvernement, il y a eu ça, pour que ça permette aussi aux autres auditeurs d'avoir un peu une précision.
Ok, justement, je voudrais y aller parce que si nous prenons la politique budgétaire pour la relance économique, je crois que les dépenses du gouvernement pour stimuler l'économie n'ont pas été augmentées. Donc, il n'y a pas eu d'investissement public pour qu'on nous dise qu'il y a eu relance économique. Parce que la relance économique suppose qu'il y a des investissements publics qui permettent de résorber le chômage. Pierrot, je crois que de ce côté-là, l'invité reconnaîtra avec moi que le chômage n'a pas été résorbé. Les investissements publics, nous avons pleuré tous les jours ici avec la NAPI qu'il n'y a pas eu d'investissement public. Et donc, aujourd'hui, je n'aimerais pas qu'on dise qu'on a fait quelque chose pour stabiliser. De ce côté-là, si nous prenons, j'ai oublié les chiffres, mais je sais qu'il n'y a pas eu les investissements publics, il n'y en a pas eu qui peuvent nous permettre. Alors, un autre point, c'est que le coût du crédit, Pierrot, le taux d'intérêt, nous avons déjà dit plusieurs fois que nous sommes parmi les pays où le taux d'intérêt est très très élevé. Et de ce côté-là, ça ne peut pas promouvoir les investissements. Et nous avons évidemment les règles de la bonne gouvernance. Tous les jours, nous sommes parmi les pays qui sont condamnés pour la mauvaise gouvernance. Et donc, nous avons ça, ces 3 piliers-là pour la relance économique. Donc, je dirais que du côté de relance économique, c'est plutôt stagnation dans beaucoup de domaines et à certains endroits, il y a eu recul. Il y a eu recul. Si nous prenons l'agriculture.
Alors, si nous prenons, en partant de ce que vous dites, Olivier, vous estimez qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient être faites sur le plan de la sécurité, beaucoup de choses qu'on pouvait faire, qu'on n'a pas pu faire. S'il y a eu stagnation, l'invité dit qu'il y a une base. Cela veut dire qu'on peut considérer qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Certaines ont été faites, mais qui peuvent constituer une base aujourd'hui, peut-être pour le prochain gouvernement. Alors Serge, vous êtes à Kamina. Merci hein, à Olivier pour toutes ces précisions. Serge, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour bien-aimé Pierrot. Bonjour à tous les meilleurs auditeurs de la radio Kati qui nous écoutent à ce moment.
On vous écoute.
Merci beaucoup en tout cas. Moi je ne fais que présenter les regrets. En fond d'ailleurs, si on dit qu'on a organisé les élections, est-ce que ces élections-là ont satisfait tout le monde? Est-ce qu'on a atteint l'ensemble des élections, les municipales, les urbaines, est-ce qu'on a atteint partout là? Et puis quand ils vont parler de la sécurité, on doit voir la sécurité dans son ensemble. Ce n'est pas seulement là où on tue les gens. Allez, vous m'assurez, je vous dis, on est en train de tuer les gens du jour au jour. Au mois de septembre, il y a une fille là qui devait aller au mariage le samedi, mais le vendredi, on viole cette fille-là. On trouve que normal, c'est là où on dit non, on a ça, il y a eu la sécurité là-bas. Moi, je dis, en tout cas, sur le plan.
Alors, Serge, si on peut revenir aujourd'hui, et là où vous êtes à Kamina, précisément, quels sont les éléments que vous auriez aimé voir le gouvernement Bruno Tshibala accomplir là où vous êtes sur place à Kamina? Et qui n'a pas été fait.
Il est marqué au point zéro. Rien n'est vrai à Kamina. Je vous dis, c'est la misère, comme mon PDG vient de le dire. Nous sommes en train de souffrir. Regardez ceux-là qui sont en train de se réjouir. Ce sont les grands politiciens ou s'intéressent quand on parle du problème de salaire. Il fallait éviter les écarts. Un ministre touche combien? Un député doit toucher combien? Un pauvre enseignant qui a 10 enfants dans sa maison. Comment est-ce qu'il pèse pour collecter les enfants? Il devait éviter les écarts. Le gouvernement Tshibala n'a rien foutu. Et les élections municipales, est-ce que c'est accompli? La sécurité, il y a l'insécurité. Mais je suis en train d'apaiser seulement la ville de Kamina, puisque c'est l'unique ville peut-être au monde où les militaires et les civils sont en train de vivre pratiquement. Je regrette, en tout cas, si Tshibala...
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Serge. Pour vous, le gouvernement a organisé des élections, mais est-ce que ces élections ont satisfait tout le monde? Mais pourquoi on n'a pas organisé les élections locales et municipales? Mais pour Kamina, quand même, vous dites que c'est bien, il y a eu une cohabitation pacifique entre la population et les militaires, mais vous estimez que le gouvernement Tshibala aurait aussi réduit les écarts hein, sur les salaires, mais ailleurs, il y a encore l'insécurité. Ignace, vous êtes à Kolwezi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Ignace, vous êtes avec nous, bonjour.
Le professeur Tshibangu Kalala, pour qui j'ai beaucoup d'estime pour sa participation dans notre société. Mm-hmm. Je voudrais dire d'abord qu'il faut féliciter le gouvernement pour la mobilisation de fonds, parce que ce fonds avait été bel et bien mobilisé par rapport à l'organisation des élections, même si il reste encore une autre partie dans l'organisation, et encore s'il faut nous réserver, on ne va pas ici condamner le gouvernement par rapport à la qualité des élections, mais pour eux, c'était d'abord réunir le fonds qui devait nous éviter de nous mettre à genoux par rapport à l'extérieur. Ça, il faut saluer. Et quand je parle de la stabilité économique, je me dis que là, il se pose un problème. Je me rappelle bien que lorsque le Premier ministre Tshibala venait d'être nommé, il avait promis de réduire le taux du change jusqu'à 100, mais cela n'a jamais réussi. Et ici, je voudrais rappeler qu'au cours de leur mandat, parce que ce n'était pas une transition, ils faisaient pratiquement le travail. Et quand on est au gouvernement, on est Premier ministre, on prend la commande des affaires politiques pour donner des solutions aux problèmes de la population. Vous allez remarquer, par exemple, qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a des taux différents. Il suffit de voir les taux utilisés par les étudiants dans les institutions supérieures et universitaires, et le taux qui est utilisé à la SNCC. Ça pose déjà des problèmes. Donc il faut se dire qu'il y a beaucoup de défis qui restent. Il y a une maladie dans notre pays, on parle beaucoup plus de stabilité macroéconomique sans considérer les indicateurs et considérer le panier de la ménagère. La stabilité économique, c'est une réalité qui doit être vécue dans la société. Quand on regarde les études quotidiennes aujourd'hui, ils continuent à poser des problèmes. On peut bien parler d'avoir majoré des salaires, mais la majoration de ces salaires, est-ce qu'il y a eu amélioration des conditions de vie de ceux qui ont bénéficié de la dite majoration? Non, je remets cela en cause. Donc ce sont des défis qui sont restés permanents. Mais il faut reconnaître aussi qu'ici, l'amélioration du climat des affaires a semblé bien se présenter parce qu'on a eu l'afflux d'investisseurs, beaucoup plus dans le secteur forestier et minier. Mais cela n'a pas résolu le problème de l'emploi des jeunes et de toute autre catégorie sociale. Ça continue à poser des problèmes. Mmh. Je reviens sur le portefeuille de l'État. La situation des agents GECAMI, de la SNCC, elle continue encore à pleurer, à crier. C'est un secret pour personne.
Mm-hmm. Ignace, en partant de ces éléments, vous insistez quand même le fait que le gouvernement ait mobilisé les fonds propres pour organiser les élections, c'est déjà un point positif. Mais il y a eu beaucoup de choses qu'il fallait aussi faire. Mais vous avez quand même salué l'amélioration des climats des affaires, estimant qu'il y a eu beaucoup d'investissements en termes disons d'investissements dans les secteurs miniers, forestiers, c'est vrai, mais qui n'a pas aussi eu un impact dans la résorption, bien sûr, du chômage. Mais vous estimez qu'il y a encore beaucoup de défis qui restent pour, je crois bien, le gouvernement à venir. On va à terminer pour cette première partie avec Simon qui est à Matadi. On revient à notre invité pour commenter. Simon, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Théron et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment à travers le monde.
On vous écoute.
Pour qui j'ai beaucoup de respect aussi, surtout sur ce que nous devons dire à la place publique. Nous parlons sur le plan économique, c'est vrai. Il y a eu des objectifs sur le plan économique prescrits par le Premier ministre lui-même. Premièrement, il a rencontré les dollars entre 148 à 150. J'ai encore les éléments sonores. Il avait dit qu'il va ramener ces dollars à 100 000 francs. Donc les dollars se chargeraient à 100 000. Et ça, c'est les paroles lui-même de notre Premier ministre, parce que juste ici, il est là, qu'il avait dit. Alors maintenant, il faut voir, entre 150 et 100 fixés comme objectif, et 165 que le dollar a atteint, est-ce qu'on a réussi ou on a échoué? Si c'était une cote, ça serait combien on avait donné? C'est dans ce sens que nous pouvons réfléchir pour faire comprendre à la population de manière détaillée. Et puis sur le plan salaire des agents, vous savez, on gagnait ce qu'on gagnait parce que les salaires, on ne peut pas les divulguer comme ça, ce qu'on gagnait. Les 20 000 qu'ils ont ajoutés, c'était simplement par rapport à la perte de coût de dollars qui est partie trop loin. Et on a cherché, on a voulu à atteindre ce seuil qu'on n'a pas atteint. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants ne gagnent pas 100 dollars, ne gagnent pas 165 000 francs.
Donc, on était comme auparavant. Donc, lorsque les chiffres augmentent comme ça, on ne nous dit pas qu'on a augmenté, alors que les thermomètres chez nous, même quand on fait le budget, on l'équilibre, on dit en francs ceci, en dollars ceci. Mais nous, nous avons perdu. Il faut reconnaître ces erreurs où là, on n'a pas réussi pour qu'on soit plus fort et apprécié de tout le monde quand on le dit clairement. Mais sur le plan sécuritaire, il n'a pas parlé sur le plan de guerre. J'ai encore des éléments sonores. Le Premier ministre n'avait pas dit que la guerre, il avait parlé de la sécurité. Or, quand nous voyons la sécurité, chez nous, en Batali, ici, le banditisme, les Koulouna prend de l'essor. C'est chaque jour qu'on tire les changeurs de monnaie ici dans leur maison. Et pas plus tard que la fois passée, ces bandits, les Koulouna qui se promènent à ciel ouvert en plein jour, parfois en plein midi, avec des machettes et tout ça, créent un climat de peur au travers de la population. Ils prennent les décisions. Aujourd'hui, tout le monde rentre au travail, même s'il y avait le travail après 16 heures. Ils rentrent très tôt pour ne pas se faire attraper par ces bandits qui créent l'insécurité. Mmh. Et nous entendons, nous suivons la radio Capi qui nous rappelle ou qui nous informe de l'état des choses de la nation. Et presque c'est la même situation à Kinshasa et partout ailleurs. Les Koulouna prennent de plus en plus de l'avance. Donc c'est l'insécurité et sur le plan alimentaire. Sur le plan sécurité alimentaire. C'est aussi ça. Quand les gens ne mangent pas bien, ils sont impayés. Ils sont sous-payés. Ils ne sont... D'ailleurs, nous avons suivi quand l'actuel président de la République a été élu et investi, Tshisekedi Tshilombo et Étienne Antoine, le président de la République, vous avez suivi les sociétés d'État qui accusaient les 50 mois de salaire, de retard. Il y avait même Hervé, je ne sais quoi là, qui avait 180 quelques. Il y a des sous-payés et tout ça. Donc, on ne peut pas...
Alors, Simon, ça dit que si nous prenons les éléments clés tels que vous les avez présentés, vous avez estimé que le Premier ministre était fixé un objectif de réduire le taux d'échange à 1000 francs pour 1 dollar américain. On est aujourd'hui à 1650. Vous estimez que ça n'a pas marché. Mais quant à l'ajout, bien sûr, sur les salaires de fonctionnaires et des enseignants, vous estimez que malgré qu'on ait ajouté cet argent, mais dès lors que le taux d'échange n'a pas été réduit à 1000, c'est là n'a pas eu d'impact sur le travail, mais les cas d'insécurité, banditisme comme les assassinats qui ont lieu à Matadi et ailleurs, vous estimez que les choses n'ont pas été beaucoup faites pour améliorer, même s'il n'y a pas la guerre d'une manière, d'une guerre conventionnelle d'affrontement, mais cette insécurité, que ce soit à Beni, à Djougou, c'est un problème qui se pose. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine. Mais les débats s'étendent également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Un jour, une histoire. Un magazine sur le soir du Congo. Révivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez le personnage et acteurs de notre histoire ainsi que leur rôle. Un jour une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion le dimanche à 8h30 et 20h30. Le mercredi à 14h15.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons ici à notre invité, professeur Tshibangalala, ministre délégué auprès du Premier ministre. Et professeur, vous avez suivi les auditeurs. C'est vrai que, bon, ils ne disent pas que tout a été largement négatif, qu'il y a certaines choses que vous avez faites, mais pas dans la proportion qui pourrait vraiment donner une grande satisfaction, mais d'une manière globale.
Oui, merci, Pierrot et la Mégie. J'ai bien suivi mes amis au CAPI qui ont posé ces questions, qui sont des questions tout à fait légitimes. Je partage la colère de M. Simon Nsiloulou de Matadi. M. Nsiloulou, je suis d'accord avec vous. D'accord avec vous pour dire qu'il y a encore le banditisme dans notre pays, à Kinshasa et ailleurs. Mais ceux qui créent ce banditisme ou les bandits, ce sont des Congolais. Il n'y a aucun pays au monde, M. Nsiloulou, et ça je rejoins également Olivier de Kikwit qui pose le problème, il n'y a aucun pays au monde qui a mis fin à la délinquance et au banditisme dans son pays. Aucun pays au monde. Je ne peux pas vous donner le chiffre des soldats et des policiers de notre pays. J'ai ces chiffres-là. Je connais. Bon. Mais je ne peux pas vous les donner. Pour des raisons de réserve en tant que membre du gouvernement. Mais nous ne pouvons pas, Pierrot et Lemegi, M. Nsiloulou, M. Olivier de Kikwit, placer un policier derrière chaque Congolais. Placer un soldat derrière chaque Congolais. Nous avons plus de 80 millions de Congolais. C'est pas possible. Et donc, votre interpellation, M. Nsiloulou Amatadi, cette interpellation est allée tout droit dans les oreilles des autorités policières de la ville de Matadi. Parce que c'est notre police, la police nationale, qui est chargée d'assurer le maintien de l'ordre, d'assurer sur le terrain, quotidiennement, jour et nuit, la protection des personnes et de leurs biens. Il faut que notre gouvernement, je peux te donner des moyens, pour équiper notre police, lui donner tous les moyens nécessaires pour faire face aux actes de banditisme, renforcer la répression. Bien. Et donc, ce problème, il est réel. Je ne suis pas dans le déni des réalités. Mais ce problème, c'est le combat de tous les jours. Mmh. Et dans tous les pays du monde, justement. Bien. Nous demandons aux autorités policières qu'elles fassent leur travail. Mais ces autorités demandent des moyens pour être efficaces. Mmh. Et la lutte contre le banditisme, M. Nsiloulou, c'est une lutte globale. C'est holistique. C'est tout le monde, la population, les autorités qui doivent se mobiliser pour mettre fin au banditisme. Qu'il faut dénoncer. Ces gens-là, ces bandits-là, sont des membres de famille, ils ont leur famille, ils ont leurs amis. Ils ont... Et donc, il faut que ces gens puissent dénoncer les leurs auprès de la police qui se lance dans ce type d'activité. Donc, c'est un combat global, une lutte globale. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur ici à Kinshasa seul qui va régler le problème. Ce ne sont pas les commissaires provinciaux, les policiers qui vont résoudre ce problème seuls. C'est une mobilisation de toute la communauté, de la population des bataillons de Kinshasa et ailleurs. Ça, c'est un. Deux, problème de taux d'échange. Ça revient. Monsieur Nsiloulou, ben, il faut féliciter ce gouvernement. Il y a eu une ambition. Un gouvernement doit avoir des ambitions. Le Premier ministre a eu une ambition légitime de dire que je vais ramener le taux à 1000 euros. C'est une ambition, c'est un objectif qu'il faut atteindre. Mais pour atteindre cet objectif, la valeur d'une monnaie est soutenue par la production nationale. Si on ne produit pas, nous aurons une monnaie très faible. Et donc, nous avons fait ce qu'il fallait faire justement, de stabiliser le taux d'échange depuis plus de 2 ans, à un niveau acceptable. Tous ceux qui travaillent, qui sont payés, qui sont rémunérés, sont contents. Ils ont une monnaie qui a de la valeur. Nous avons trouvé presque une guerre civile entre les bailleurs et les locataires. Les bailleurs changeaient, modifiaient le montant de loyer mensuel pratiquement chaque semaine. Les locataires n'en pouvaient plus à l'époque. Nous avons stabilisé tout ça depuis plus de 2 ans. D'ailleurs, un ancien gouverneur disait que votre gouvernement, c'est un gouvernement 1600. Pourquoi? Parce que nous avons gardé la valeur de notre monnaie à 1600, ou 1630, 1640, depuis plus de 2 ans. Donc nous avons stabilisé. Aujourd'hui, notre monnaie a le pouvoir d'achat. Les salaires que nous versons aux fonctionnaires, aux militaires, aux policiers, aux autres, n'est-ce pas? Ce salaire a de la valeur. Le panier de la ménagère, etc. Encore comme je l'ai dit, je le répète, la misère est toujours là. La pauvreté est toujours là. Nous n'avons pas réduit la pauvreté, même pas d'1%. Je le reconnais. Et donc, pour distribuer les salaires, nous demandons. Je répète encore, M. Nsiloulou, M. Olivier de Kikwit, nous devons produire notre pays. Nous devons avoir des richesses à distribuer. Si nous n'avons pas ces richesses, on ne va pas distribuer la misère. Vous comprenez? Et là, j'aborde la question de l'économie d'une manière générale. Hein, les amis sont revenus là-dessus. La question de l'économie. C'est vrai. Nous n'avons pas investi suffisamment dans notre économie. Les investissements publics, c'est Olivier qui l'a dit, je ne dirais pas nuls, mais ils ne sont pas suffisants. Si on n'investit pas dans notre économie, investissement public, investissement privé, le pays va rester dans la pauvreté, dans la misère pendant des décennies, si pas des siècles. Et donc, sur ce plan des investissements publics, le gouvernement a une justification. N'oubliez pas, M. Olivier, Serge, Ignace et tous les autres, que toute l'année 2018, priorité des priorités, c'était élection. Tout l'argent du pays, c'était d'abord élection. Et nous avons dépensé l'année dernière 501 millions de dollars. 501 millions de dollars. Les chiffres sont là. Pour financer les élections générales de l'année dernière. Et donc, nous n'avons pas eu suffisamment de marge pour trouver encore de l'argent à mettre dans les investissements publics.
Et d'ailleurs,
et cette grosse dépense...
Oui.
Je vous écoute.
Oui, parce que vous parlez des élections, il faut revenir à l'inquiétude de Serge. Il dit, mais bon, vous êtes fixé au objectif pour élection, mais on n'a pas fini le cycle électoral parce qu'il n'y a pas eu les élections locales et municipales. Rapidement, pour combiner la question des élections.
Justement, mais c'est tout à fait normal. Un pays sérieux et un gouvernement sérieux doivent faire la programmation. Il y a eu un calendrier qui prévoyait des séquences. Élections générales, présidentielle, législative, nationale, provinciale, sénatoriale. Et on a débloqué l'argent pour faire d'abord ça. Maintenant, il y a une autre séquence, une autre série qui va commencer. Locale, urbaine, municipale. Ça, ça vient après. On ne peut pas tout faire en 2018. N'oubliez pas que nous avons un mandat limité dans le temps. Nous n'étions pas là pour 5 ans, 10 ans, etc. Et donc, c'était limité dans le temps. C'était 12 mois. Et puis, il y a eu cette prolongation. Donc, il fallait faire les élections, comme on disait, les élections essentielles. Toutes les élections sont tout à fait légitimes. Et donc, on a fait ce qu'on a fait en 2018. Maintenant, il faut attendre le prochain gouvernement qui va faire une évaluation générale des moyens de l'État avec la nouvelle direction de la CENI pour voir quand est-ce qu'on va financer, organiser les prochaines élections. Mais...
Pour chuter et écouter les autres auditeurs, oui.
Et donc, pour régler ce problème d'économie, on n'a pas investi dans notre économie, investissement public, mais il y a des investissements privés, on peut en parler. On va régler ce problème d'investissement public parce que cette grosse dépense qui avait plombé pratiquement le fonctionnement de l'État, priorité élection, je vous ai donné le chiffre, on n'avait pas eu une marge suffisante pour mettre dans les investissements publics. Il faut le faire. Qu'est-ce qui fait investissement public ? Les infrastructures, il faut le faire. Mais il y a l'agriculture, quelqu'un a parlé de l'agriculture. J'aimerais que vous me donniez du temps pour que je puisse expliquer à tout le monde ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture pour régler ce problème de l'emploi des jeunes. Ignace a soulevé la question. Régler le problème de notre économie d'une manière générale parce que nous avons une économie qui est fondée sur les matières premières. Donc le cuivre, le cobalt. Par exemple, le cobalt, disons... le cobalt est allé plus loin. On était autour, on frôlait les 100 000 dollars la tonne. Mais aujourd'hui, Pierrot et Lamégi, nous sommes autour de 30 000. Donc nous ne pouvons pas fonder notre économie, lier le destin de 80 millions de Congolais, et plus, sur un produit minier. Donc une économie fondée sur les exportations des matières premières dont nous ne fixons pas les prix. Et donc, il faut diversifier l'économie et nous voulons maintenant diversifier notre économie par l'agriculture, l'agro-industrie.
On va revenir.
Et là, nous allons régler une bonne partie du problème de pauvreté, le problème d'emploi des jeunes, le problème des revenus qu'il faut distribuer à travers le pays par le biais de l'agriculture. On n'a pas d'autre choix.
Voilà. Alors, Bathier, vous êtes ici à Kinshasa, Marcel Aluiza et Ismaël Alboumbashi Bathier. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, je salue votre invité et je salue plus les compatriotes qui nous suivent au Congo profond. Par rapport au sujet, monsieur le journaliste, je dirais que même si votre invité va défendre que son gouvernement avait fait la réussite, moi je pense que je peux lui donner raison qu'ils ont fait à 100% à ce que leur responsable les a donné, c'est-à-dire que la personne qui lui a mis là-bas. Donc ils ont satisfait aux besoins de ceux-là qui l'ont mis. Mais je dirais que c'est à 0% pour l'intérêt de la population. Parce que lorsqu'ils étaient là, ils nous ont dit que ils vont d'abord établir la paix et la sécurité, par exemple à l'Est. Moi, je vis à l'Est. Mais nous remarquons, si vous prenez juste l'exemple de Beni à Mavivi, de côté Mavivi, les élèves n'ont pas étudié. Si vous prenez les coins comme à Massifi, il y a toujours l'insécurité et les groupes armés qui continuent. Vous prenez à Djougou, toujours le même problème. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire que nos valets ont fait quelque chose? Et si vous regardez le social de la population, ça se dégrade encore davantage. Monsieur le journaliste, c'est difficile. Vous êtes à Routourou, les kidnappings continuent toujours. Mais je ne sais pas comment ils vont nous dire que non, ils ont fait quelque chose. Moi, je dirais que...
Alors, quand vous parlez de la... oui, Bathier, quand vous parlez de la dégradation sur le plan social, pourriez-vous donner les indicateurs, dire par exemple que non, dans telle ville, par exemple, on achetait ça autant, ça a augmenté autant après l'action du gouvernement. Comme ça nous permet d'avoir un peu une précision sur le jugement de la situation d'une ville à l'autre. Ou bien, ici à Kinshasa, où vous êtes, vous pouvez dire non, en 2017, où on était à ça, par exemple, les prix de ça, après le gouvernement Tshibala est venu, mais voilà, nous sommes partis à ça. Est-ce que ces indications peuvent permettre quand même d'avoir une précision sur les éléments d'échec et des réussites?
Déjà, si vous prenez par exemple les taux de dollars, vous prenez là où quand ils sont entrés, les taux n'étaient pas au taux actuel. Vous prenez même les prix du carburant. Les prix du carburant n'étaient pas au même prix d'ici, même prix d'aujourd'hui. Vous prenez les pains même que les Kinois consomment ici. Ce n'était pas le prix qu'il a trouvé quand il est entré au pouvoir, il a trouvé. Vous voyez que il y a pas mal de choses. Moi, je vous dis, monsieur le journaliste, par exemple, à Routourou, moi, j'ai des frères qui vivent là-bas. La femme de nos frères, là, ils ne sont même pas à mesure de payer les frais de ces peines qui coûtent au moins dans les 3 000 à 3 500 francs. Vous imaginez un peu. Alors, il va nous dire qu'ils ont amélioré les conditions. La population n'est pas un pied accéder facilement à leurs champs. Alors, ils vont nous dire que non, voilà, ils ont donné quelque chose de spécial. Et aussi, moi, je regrette, surtout pour votre invité, ils jouent toujours au jeu des caméléons. Ils étaient hier au camp de la population quand ils étaient en dehors des enfers. Mais il est là, il commence maintenant à dire n'importe quoi. Nous regrettons beaucoup. Et nous interpellons même nos amis qui nous ont toujours donné des bonnes propositions à la radio. Quand dès qu'ils entrent au pouvoir là-bas, ils commencent à changer les propos, moi, ça nous décourage vraiment.
Voilà, merci beaucoup, Bathier. Vous êtes très inquiet. Vous estimez que, bon, vous avez dit que le professeur était avec vous. Et quand il est allé aux institutions, il a changé. Hein. Le professeur va nous dire si réellement il a changé ou il continue à être avec les auditeurs. Merci beaucoup, Bathier. Mais vous estimez que beaucoup de choses n'ont pas été améliorées, surtout l'insécurité à l'Est. Comme l'invité l'a dit, il est conscient de ça. Vous avez parlé du prix du carburant. Alors, pour vous estimez qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites et que l'invité ne pouvait pas dire que non, le gouvernement Bruno Tshibala a pu agir d'une manière plus positive. Marcel Didier, vous êtes à Luisa, au Kasaï Central. Bonjour.
Bonjour, M. Kérou. Bonjour également à l'invité, le professeur qui est dans les installations de Radio Capi.
Voilà, et là, je me rends compte que, dommage pour parole aux auditeurs qu'on est bousculé par les temps. Pourriez-vous synthétiser votre point de vue autour de cette question?
Merci beaucoup. Je m'en vais alors synthétiser. Monsieur Pierrot, pour évaluer convenablement un élève, il faut d'abord savoir sur 5 questions combien a-t-il eu à répondre convenablement. C'est comme les autres m'ont déjà dit, je vais synthétiser. Vous allez voir que de toutes les priorités que s'étaient assignées les gouvernements Tshibala, il ne faut pas quand même que nous soyons pessimistes. Ils ont quand même organisé les élections malgré quelques irrégularités et aussi... l'inachèvement du cycle électoral, les autres en avaient déjà parlé. Quand même pour ça, nous devons dire que ils ont réussi, surtout, ils ont réussi à organiser ces élections sur fonds propres de la République démocratique du Congo. Là, un petit coup de chapeau. Mais que les professeurs évoquent les raisons ou pas, il faudrait que nous puissions nous servir des erreurs du passé, Monsieur Pierrot, pour que nous puissions améliorer, si nous voulons, la République démocratique du Congo. Si vous voyez, si je peux aller brièvement, l'économie de la République démocratique du Congo, Monsieur Pierrot, est au rabais. Vous-même, vous allez voir que il y a l'inflation monétaire, tout ce que nous avons là, ça ne répond pas du tout aux principes économiques. Et même si vous suivez les radios, vous allez suivre que la RDC est vraiment en deçà de ce qui est estimable. Pour la sécurité, c'est comme les autres venaient de le dire. Vous-même, Monsieur Pierrot, d'ailleurs, après ces paroles aux auditeurs, vous pouvez suivre encore dans les journaux de 13h là. Vous allez voir qu'il ne manquera pas une information touchant à l'insécurité de nos amis. La République démocratique du Congo est un abattoir. pouvoir des autres, c'est ce que nous pouvons dire. Vous allez voir tout à l'heure, là, il ne manquera pas des cas de kidnapping, les cas de mouvements insurrectionnels, des massacres ci et là, tout ça. Vous voyez que tout ça, ça dégrade la sécurité en République démocratique du Congo.
Alors Marcel, vous avez dit, vous avez félicité le gouvernement pour avoir organisé les élections malgré des irrégularités. Les sites continuent, le professeur venait de répondre avec fonds propres, mais vous êtes beaucoup plus focalisé sur le problème de l'insécurité à Beni, à Djougou. Beaucoup sont revenus là-dessus. Vous auriez aimé voir le gouvernement mettre des moyens et vraiment le gouvernement de Birion Tshibala s'occuper vraiment de l'insécurité comme il faut, mais aussi la question économique. Mais la question économique, elle a tellement beaucoup de paramètres pour essayer de pouvoir la préciser. Mais vous auriez aimé voir le gouvernement vraiment se focaliser sur cela. Merci beaucoup. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Oui, comme beaucoup ont parlé de l'économie, moi je n'ai pas grand chose à ajouter. Mais je veux interpeller monsieur le professeur Chibankala Lanku dans sa conversation avant que le tien qui se décède. Dans son entretien avec lui, il s'était martelé beaucoup sur l'agriculture. Mais je lui pose la première question de savoir, moi je suis à Lubumbashi, qu'est-ce qu'ils ont mené, qu'est-ce qu'ils ont fait pour valoriser un peu l'agriculture et combien de fois il a été même à la faculté de Lubumbashi de l'agronomie. Je vous dis que nous avons connu l'extension du prix de la farine ici. C'est parce qu'on ne produit pas localement et lorsqu'on produit localement, nous n'avons pas de voirie qui peuvent nous aider à amener à manger au centre-ville. Nous avons encore un problème de la douane où il y a des fois où la farine qui nous vient même de l'étranger, de la Zambie et ailleurs, qu'on avait l'interdiction et la farine ne devait pas sortir pour bien nous ravitailler. C'est-à-dire nous avons quitté de 12 000 à 35 voire 40 000 francs congolais pour 25 de farine qui coûte, qui pèse plutôt 25 kilos. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que 2 ans c'est trop, parce que nous avons 2 saisons de la production. Comme nous avons 2 saisons de la production, quelle était je demande les chiffres de la production de l'année antérieure et celle de cette année, de cette campagne de production
de
manger et à boire pour nous. Maintenant pour lui, je ne sais pas s'il a changé ou c'est lui-même professeur Tshibankalala, que nous avons beaucoup de l'estime. J'espère que professeur Tshibankalala s'était donné la mission de changer la vie des Congolais. Mais je me demande, il s'était donné cet objectif avec quoi? Et quelle a été leur provision pour...
Merci beaucoup, Ismaël. Merci beaucoup Ismaël, parce que là on va permettre au professeur de répondre. Il y a eu tellement beaucoup de questions, mais la question électorale, la question de l'insécurité, vous avez déjà répondu suffisamment, je crois bien. Mais Ismaël est revenu sur l'agriculture parce que vous êtes focalisé là-dessus. Et puis je me rends compte que les auditeurs disent qu'ils sont plus proches des professeurs Tshibankalala, mais ils s'inquiètent, ils disent mais est-ce que le professeur a changé quand il est allé aux institutions, ou il est toujours dans le camp des auditeurs?
Merci Pierrot. Non, je vais rassurer mon ami Batillé de Kinshasa. Monsieur Batillé, je suis toujours le même professeur Tshibankalala.
Vous n'avez pas changé.
Que vous avez connu, dont vous avez toujours l'habitude d'apprécier les analyses et les réflexions. Je n'ai pas du tout changé. Mais c'est la politique qui a changé. Et cette politique, nous l'avons changée ensemble avec vous, monsieur Batillé. Voyez-vous? Et donc, moi, je ne dois pas faire ma propre politique qui est différente de la politique que nous avons changée ensemble. Je dois m'adapter. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est ce que vous m'avez demandé de faire. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est vous qui m'avez demandé de le dire. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est vous qui avez changé, moi je n'ai pas changé. Je suis toujours sur la même ligne. Quelqu'un qui défend notre peuple, qui défend le bien commun, qui défend l'intérêt général. Ça, c'est très important.
Et la question de l'agriculture, parce qu'il s'est beaucoup focalisé sur ça.
La question de l'agriculture ou de la misère, je répète encore une fois. Le gouvernement Tshibala n'a jamais promis à notre peuple d'instaurer le paradis en RDC dans l'espace de 12 mois. Et dans quel environnement? Dans un désert économique. Ce pays, c'est un pays rural. La RDC, c'est un pays rural, arriéré, sans infrastructure, sans industrie. Si vous survolez ce pays, vous ne voyez pas un seul chemin de fer.
pas une seule autoroute. C'est un pays arriéré, rural. Comment nous allons instaurer un paradis social dans un tel environnement? Mais c'est un défi que nous allons relever ensemble de génération en génération. Mm-hmm. Pour relever ce défi, il faut nous inscrire dans la chaîne de génération. Aujourd'hui, nous devrons faire ce qu'il faut faire. L'autre génération va prendre le relais et on continue. Maintenant,
la deuxième question point, de l'agriculture, c'est important pour terminer.
Je vais revenir là-dessus. L'amélioration des conditions de vie d'un individu, d'un Congolais, c'est d'abord la responsabilité individuelle. Mm-hmm. Ce n'est pas l'État qui va passer dans chaque famille, distribuer à manger, distribuer de l'argent. Ceci. Il y a déjà l'effort individuel, une autoprise en charge individuelle pour améliorer votre cadre de vie. L'État ne crée qu'un environnement global, général, pour donner les chances à chacun. Donc il ne faut pas, vous ne mangez pas chez vous, vous dites que c'est l'État qui est responsable. Mais non, il y a des efforts personnels que vous devez faire pour améliorer votre vie. Je suis tout à fait d'accord avec M. Ismaïl, qui pose un problème important. L'agriculture. M. Passois de Luisa, vous devez vous estimer des gens, être des gens heureux. Je suis arrivé chez vous à Luisa, à Salushimba, dans le secteur de Lucha. Je suis arrivé là-bas avec des projets, justement, pour développer l'agriculture dans notre pays. Mm-hmm. Je suis arrivé à Chapula, à Kazumba, quelque chose. En roulant toute la nuit pendant 22 heures de route, en pleine nuit, justement, pour aller voir les sites de la culture. Monsieur Ismaïl, nous allons diversifier l'économie de notre pays par l'agriculture. Il n'y a que l'agriculture et l'agro-industrie qui vont permettre à notre pays de se développer et de lutter sensiblement contre le chômage, contre la pauvreté.
Et qu'est-ce qu'il y a des actions qui sont maintenant mises en place en ce moment, rapidement, parce que là, on n'a que deux minutes.
Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Mm-hmm. Le président de la République honoraire, Joseph Kabila, a lancé le programme volontariste agricole, qui vient d'être soutenu fortement par le président de la République, chef de l'État, Félix Tshilombo. Nous sommes en train d'expérimenter ce programme dans 6 provinces déjà. Mm-hmm. Et là, on a investi pour à peu près 140 millions de dollars, pour la première fois, pour développer l'agriculture, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire dans notre pays. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est pour augmenter la production du riz en Kundi, dans le Congo central. On a déjà cultivé pour à peu près 500 et 10 000 hectares, 500 000 hectares de riz qu'on va s'aimer à partir du mois de septembre. Et donc l'année prochaine, vers février-mars 2010, les Congolais, les Quinois, les gens de Matadi, ils vont manger du riz produit au Congo, avec ce programme. Nous avons le maïs, autosuffisance, sécurité alimentaire. Ça, c'est à Luisa et à Kazumba. Donc, Salushimba, groupement de Chapula, on va produire le maïs. Les enjeux sont en vire et l'argent est déjà débloqué par votre gouvernement. Mmh. Ce n'est pas un programme en l'air. L'argent est là, déjà débloqué. Et dans quelques mois, les habitants de Luisa, j'étais là, je parle avec eux, à Salushimba, ils vont voir les travaux commencer.
Dommage dans la qu'on n'a que 20 secondes, tout simplement.
Et donc, nous avons lancé un programme majeur dans l'agriculture pour permettre à notre peuple de manger ce qu'il produit lui-même. Aujourd'hui, nous dépensons presque 5 milliards de dollars par an. Mmh. 5 milliards de dollars par an pour acheter la nourriture à l'étranger pour nourrir les Congolais.
Merci.
Il faut arrêter cela. Nous ne pouvons pas continuer à financer l'agriculture, l'élevage et la pêche des autres pays. Il faut que cet argent reste chez nous. Mmh. C'est ça la décision du gouvernement. Merci. Pour développer notre propre agriculture. Je suis prêt à revenir ici sur Radio Okapi pour en parler en détail avec ce programme qui est important.
Merci beaucoup, professeur Tshibankalala, ministre délégué auprès du Premier ministre. Merci d'être venu. On ne pourra pas peut-être résoudre toutes les questions dans cette émission, mais l'essentiel a été abordé. On poursuit les débats avec les auditeurs sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Au revoir.